À l'occasion de la présentation au public du programme de la 16e édition du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale d'Arras, organisé par l'association Colère du Présent, une rencontre avec Michael Keller, scénariste de la BD Dans l'ombre de la peur, co-réalisée avec le dessinateur Joss Neufeld, s'est déroulée mercredi 29 mars à l'Hôtel de Guignes d'Arras. Ce livre retrace l'enquête qu'ils ont menée dans les méandres du Big Data, ces données personnelles que recueille en nombre phénoménal un petit nombre d'entreprises privées ayant pignon sur le web. Via nos téléphones portables, nos ordinateurs, en passant par les réseaux sociaux, moteurs de recherche ou encore nos comptes mail, entre autres, ce Big Data cible nos habitudes et nous incite à se méfier des traces qu'on laisse à chaque connexion. Doit-on devenir parano face à ces nouvelles technologies ? Entretien avec Michael Keller pour en savoir plus sur l'envers du décor des interfaces connectées. Et comme il est également journaliste spécialisé dans les nouveaux médias, on évoquera avec lui l'aspect journalistique. On est ici pour parler de votre livre Dans l'ombre de la peur, qui a été aussi écrit en collaboration avec Josh Neufeld. Vous êtes journaliste spécialisé dans les nouveaux médias. Alors, vous vous intéressez au Big Data. D'abord, peut-être expliquer un petit peu ce que c'est le Big Data et le sujet, la thématique de votre livre.
Le Big Data se concerne avec la collection des données personnelles des utilisateurs d'Internet, surtout par exemple la service Facebook ou vos recherches dans Google ou d'autres moteurs de recherche, et toutes les données autour de la personne sont rassemblées et ça fait la base d'un profil qui est ensuite vendu pour le cadre marketing et d'autres usages.
Alors, je crois que ça commence en 2004 avec la sénatrice de l'État de Californie, Liz Figueroa, qui avait proposé une loi. Finalement, elle a été refusée parce qu'on a décidé qu'elle s'opposait au progrès, tout simplement, des nouvelles technologies.
Oui, et c'est un argument qu'on entend souvent, que les gens qui sont pro-privacy sont contre l'innovation. Et je crois fortement qu'il y a un espace de chevauchement où on pourrait avoir des services très innovatifs avec un bon succès dans le marché, ou qui est utile pour la majorité des gens, qui protège les droits du consommateur.
Alors, concrètement, pour quelqu'un qui surfe sur le net, voilà, qui ne sait pas justement que ces données peuvent être récupérées, je pense surtout aux jeunes qui ne font pas attention et qui surfent sur le net tout le temps, qu'est-ce qu'on peut leur dire justement à ces gens pour qu'ils se méfient un petit peu de ce qui se passe quand, par exemple, ils se connectent avec leur compte Gmail ou autre ? Est-ce qu'il y a une alternative justement pour éviter de se faire piéger à ce niveau-là ?
Pour moi, dans ma vie personnelle, ce que je fais quand je tombe sur un nouveau produit, je me demande quelles sont les données qui sont collectées par ces devices. Si surtout c'est quelque chose qui va dans mon appartement, comme des assistants personnels comme Siri ou Alexa Echo chez Amazon, je me demande alors, est-ce qu'il y aura un enregistrement de ma voix quelque part sauvegardé, et est-ce que ça c'est un fait qui est confortable avec moi? Donc il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est un bon choix pour moi? Et quelles sont les données, surtout les données médicales, les données par rapport à la santé, que l'on veut mieux garder.
Vous développez aussi dans cette BD la théorie du dévoilement. Pouvez-nous parler un petit peu de ce que c'est que cette théorie ?
Oui, la théorie du dévoilement, c'est une idée de Scott Pepitt, qui est professeur de loi dans le Colorado. Et la théorie dit que dès que un certain nombre de gens s'inscrivent à un service, les gens qui ne s'inscrivent pas sont stigmatisés. Et si c'est un produit par exemple le Facebook, si j'ai pas de compte Facebook, est-ce qu'on va dire que Michael, oh, il est un peu bizarre parce qu'il n'a pas de Facebook. Pourquoi il n'a pas de Facebook? On discute dans la BD. le code de l'assurance. Et si je ne m'inscris pas à un service qui enregistre mon style de driving pendant 30 jours, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas bon? Et donc, à quel point est-ce qu'on oblige les gens de s'inscrire pour ne pas avoir cet acte de stigmatisation?
En fait, si on n'a pas de Facebook, si on n'a pas de compte Twitter, etc., on est un peu un marginal finalement maintenant.
Dans certains groupes, je pourrais très facilement voir que c'est le cas. Mais je crois fortement que les utilisateurs ont aussi un pouvoir contre les conventions. Donc j'ai certains amis qui n'envoient pas de mail le week-end. Et ils ont informé leur cercle social, ils ont informé leurs amis, et nous comprenons que c'est le cas. Et donc, je crois vraiment qu'on peut créer ces lignes dans nos vies personnelles, et plus qu'on en parle, plus que nos amis sont aussi informés, et ils peuvent décider de faire pareil ou créer d'autres espaces dans leur vie où la technologie est limitée elle-même.
Il faut réussir à la contourner, en fait, cette technologie.
Oui.
Comment on fait pour la contourner, cette technologie qui nous cible?
On peut arriver à contourner la technologie en prenant ses décisions, en se demandant avec tel ou tel service, est-ce que ça mérite la collection de données, mais aussi quelles sont les pratiques dans ma vie sociale que je veux avoir, quels sont les espaces de ma vie privée que je veux préserver, et par regarder au service, de me dire comment ça va marcher.
Est-ce que vous pensez que cette nouvelle technologie, ces données qui sont évidemment connectées et en même temps on peut vous cibler pour vous envoyer des publicités ou vous inciter à aller sur des sites? Alors ça marche évidemment en informatique, mais c'est aussi le cas évidemment avec la télévision où on voit des publicités souvent, il y en a plein de publicités. La manière est différente d'influencer les gens sur Internet ou alors via les télévisions, les radios, etc.
Ça, c'est une très bonne question. Et je crois que ça comprend deux parties. La première, c'est que ce qui est vraiment nouveau dans cette situation, c'est que les publicités sur la télé actuellement, c'est un dispositif de la diffusion. Or, avec le numérique, on peut faire la liaison entre ton device mobile, la télévision dans ta maison, peut-être même le système dans la voiture et ton ordinateur personnel et ton ordinateur au bureau, qui est tout à fait nouveau. Donc on a une précision et une compréhension de ta vie totale qu'on n'a pas eu avant. La deuxième partie, c'est cette question de l'efficacité du marketing ciblé, et d'après ce que j'avais lu, toujours une question ouverte. On ne sait pas exactement le pourcentage, la différence entre l'efficacité d'une publicité ciblée après, par exemple, les mots-clés dans une recherche et une publicité ciblée sur ton profil entier. Mais on sait que ces données ont des usages hors du marketing. Et en Amérique, on sait aussi que la police et le gouvernement ont un intérêt à la collection de ces données.
Ben, qu'est-ce que vous pensez alors des lanceurs d'alerte? Justement, parce qu'il y en a quand même pas mal aux États-Unis, des lanceurs d'alerte qui sont suspectés justement d'avoir divulgué des informations. Est-ce que c'est une bonne chose finalement qu'il y ait des gens, plus de gens comme ça?
Ben, à mon avis, en tant que journaliste, la différence entre notre profession, c'est qu'on a un processus d'évaluer la source des informations. Et je crois fortement en les pratiques du journalisme et les biens que ça apporte à la société. J'espérerais que les autres parties qui veulent dévoiler les informations ont conscience de ces pratiques qui sont bien travaillées. Ces institutions qui aident à construire une société civile et qui informent le public ont bien utilisé depuis des décennies.
en Europe et en France notamment, on a aussi une nouvelle forme de journalisme qui est née. Je ne sais pas si vous connaissez le périscope. N'importe qui peut filmer avec, avec son téléphone portable et il y a une plateforme qui relaie, etc. Nous, on a vécu ça énormément lors des manifestations anti-loi travail où, évidemment, les gens, beaucoup sur périscope, dénonçaient la maltraitance policière envers les manifestants. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle forme de journalisme, finalement, citoyen presque, parce qu'il peut y avoir aussi des dérives de ce côté-là, évidemment, est-ce que vous pensez que cette nouvelle forme de journalisme peut être une sorte de rambarde de sécurité pour justement divulguer la vérité vraie et non pas celle que les médias dominants pourraient nous faire parvenir ?
Le terrain est nouveau dans le sens que les moyens sont plus faciles pour les citoyens de base, les citoyens moyens. Vous avez tout à fait raison que les images ont un grand pouvoir, mais on sait bien aussi que le travail d'un journaliste ne se termine pas au moment où il trouve une image. D'après mon expérience, il est très complexe de faire du reportage, surtout autour de ces histoires qu'on voit souvent sur la une. Et je pense que c'est très bien que beaucoup de monde ont accès à ces moyens de diffusion. J'espère bien que ça informe la discussion plus large et nous donner des faits réels.
Pour revenir un petit peu sur la bande dessinée, hein, dans l'ombre de la peur, vous vous mettez en scène avec Joss Neufeld, également dans la BD. Mais par contre, lui, il paraît être un petit peu naïf face aux nouvelles technologies. Est-ce que c'est un choix ? Vous avez travaillé tout ça ensemble ou est-ce que c'est vraiment sa vraie personnalité ? Il tombait un peu dénu.
Oui, c'est la vraie personnalité de nous deux. Et quand on a commencé la BD, on s'est dit on veut vraiment que le lecteur a l'impression que c'est une conversation entre eux et nous, et même entre nous deux. Après avoir parlé un peu, parce que le sujet était nouveau pour Josh, je lui ai contacté avec l'idée de faire une BD sur la privacy. Et en parlant, on s'est rendu compte que moi, j'étais un peu plus paranoïaque que lui. Et on s'est dit, alors, c'est très bien, on va mettre ça dans la BD. Et on voulait bien que d'un moment à l'autre, le lecteur s'identifierait parfois avec mon personnage et parfois avec celle de Josh. Parce qu'on n'est jamais 100% l'un ou l'autre, même moi. Si vous lisez la BD, vous verrez, on fait tous des choix et parfois les choix changent ou ça. Et c'est ça, c'est la complexité qu'on trouve entre les deux personnages, qu'on voulait mettre sur la page.
Finalement, quand on lit votre livre, est-ce qu'on devient parano un petit peu, comme vous le disiez juste à l'instant ?
Je dirais qu'on devient conscient des systèmes qui contrôlent nos vies numériques.
Vous évoquez aussi dans le bouquin les cartes de fidélité. Alors, les grands magasins, etc. Est-ce que c'est un piège ou pas finalement ?
On parlait avec les économistes et c'est aussi une question ouverte. La question qu'on voulait explorer, c'était souvent on donne les données personnelles parce qu'on bénéficie d'une certaine manière. Mais on a parlé avec des économistes et c'est pas toujours le cas. Ou même si on ne sait pas, c'est au moins une point d'interrogation.
Je prends mon exemple. J'ai une carte de fidélité dans un supermarché que j'utilise, hein, évidemment. Et il m'envoie chaque mois, je crois, une petite carte avec des références de produits que j'ai déjà achetés. Et si vous rachetez le même produit, vous avez autant de points dessus et ça vous coûtera moins cher. Mais rien de nous, en tant que consommateurs, nous oblige à les acheter. Moi, par exemple, il m'envoie la carte, je la jette à la poubelle et c'est pas pour autant que je vais acheter exactement ce qu'il me demande. Est-ce que vous pensez qu'il y a certains publics qui est largement influencé par ce genre de promotion ? Je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis. Hein.
Ça se passe de la même manière. Je ne vois pas trop de menaces dans ce genre de promotion. Et en fait, si on a en Amérique une culture en fait, des coupons de ce genre, et pour certains, ça marche très très bien. Et ils connaissent le jeu, en fait, et ils prennent l'avantage. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est du tout négatif, et certainement, peut-être, et pour plusieurs, est positif. Si, par exemple, tu reçois un truc pour du savon, et tu sais que chaque mois, tu achètes du savon, ça va. Grâce à un truc que tu as reçu, tu achètes deux ou trois mois de la quantité du savon, ça va, ça va durer. On part dans la BD de la situation où, bien que tu aies une carte de fidélité, les prix vont quand même augmenter. Et en fait, la carte ne sert à rien par rapport à un supermarché qui n'a pas de programme de fidélité.
Vous évoquez aussi le Fitbit. Alors, c'est quoi exactement ? Ça marche comment ?
Le Fitbit, à la base, c'est un device que tu mets comme un bracelet qui enregistre la quantité de pas que tu prends chaque jour. Et qui est dans un premier temps génial, parce que si tu veux améliorer ta santé, ça te donne des buts et tu vois ton progrès. Et vraiment, ça donne vraiment envie, c'est encourageant. Dans un deuxième temps, les données médicales, les données de la santé, sont une catégorie, je dirais, dans une catégorie spéciale. Et on devrait vraiment se méfier des devices et leurs conditions d'utilisation. Par exemple, chez nous en Amérique, on a cette question de l'assurance qui n'est pas exactement la même question qu'en France. Mais si quelqu'un regarde tes données Fitbit et ça change une décision...
Ça voudrait dire aussi que dans un certain sens, le Fitbit, les données médicales donc, sont connectées. Peut-être que les laboratoires d'analyse, les pharmacies, tout ce qui est le lobbying pharmaceutique ont accès à ces données et finalement vous influencent peut-être pour aller dire « faut prendre tel médicament pour aller mieux pour... ». Vous pensez que c'est possible ?
Oui, je pense que c'est possible. Le professeur de la loi, Scott Pepitt, qu'on en a parlé avant, il a fait une analyse des devices, des objets connectés. Et il a trouvé que dans la plupart des cas, les conditions d'utilisation ne sont pas très élaborées par rapport à qui a accès à ces données, avec qui est-ce qu'ils ont le droit de partager les données. Donc je crois que c'est bien possible.
Alors lors de la conférence tout à l'heure, justement, on parlait des objets connectés. Quelqu'un a émis une suggestion. Les objets ou jouets connectés pour les enfants. C'est un sujet délicat. Comment ça se passe ?
Je crois certainement les données concernant les enfants, c'est une catégorie qui vaut la peine d'examiner, comme les conditions, comme les données médicales, et comme les données de la santé. Aux États-Unis, on a certaines lois qui protègent les mineurs. C'est doublement important.
Bah, quoi qu'il arrive, si les enfants ont accès, je pense aux consoles de jeux aussi qui sont connectées, qui peuvent également influencer les enfants pour acheter ça. Est-ce qu'aux États-Unis, alors peut-être en France ça existe, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a moyen de bloquer, d'avoir un accord parental qui verrouille justement les accès à cette connexion pour que les enfants ne soient pas influencés par d'autres produits finalement ?
À mon avis, les contrôles parentaux, c'est une bonne modèle. C'est quelque chose d'assez basique et assez connu, donc ça m'apparaît fantastique. Si tu as un jouet comme un Barbie connecté, et l'enfant parle à Barbie et la voix de l'enfant est enregistrée et envoyée pour être traitée au centre des données, les parents dans cette situation devraient vraiment réfléchir et décider si ça c'est quelque chose qu'ils veulent pour leur enfant. On voulait faire avec cette BD informer et donner le pouvoir soit aux parents, soit à l'individu pour faire la décision de leur vie eux-mêmes.
Finalement, est-ce que si on prend l'un des plus gros d'Internet, Google, est-ce qu'il est un ami dont on doit se méfier ou notre pire ennemi ?
Google est une entreprise très varié. Donc vous avez plusieurs services. Vous avez Gmail, vous avez Recherche, vous avez Maps, les cartes. En tant que journaliste, je préfère voir le monde dans une complexité.
D'accord.
Et donc les choses ne sont pas noires et blanches. Et donc c'est pour ça qu'on a créé toute une belle... Si la réponse est simple, il ne faut pas utiliser Google, ça c'est vraiment... c'est pas réalistique.
Donc il faut se méfier, mais il faut l'utiliser, mais tout en se méfiant, tout en restant vigilant.
Il faut être avec n'importe quel service conscient de l'enjeu.
C'était un entretien avec l'Américain Michael Keller, scénariste de la BD Dans l'ombre de la peur. Il était invité par l'association Colère du présent à l'occasion de la présentation publique du programme de la 16e édition du Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale d'Arras.